ensemble sur Calade.
L'humeur littéraire du libraire.
Et oui, on retrouve tout de suite Bertrand Lamure de la librairie des Marais. Bonjour Bertrand.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Bon, alors dans quel univers littéraire allez-vous nous emmener aujourd'hui?
Je crois qu'aujourd'hui, il fallait respecter l'actualité.
Ouais.
Voilà, soyons simples.
On va parler Panthéon.
Bravo, ouais. Alors, on aurait pu, je me suis dit, est-ce qu'on s'attaque à l'histoire du Panthéon mais je dis non. Mais par contre, je reconnais très envie de parler de Joséphine Baker, bien sûr.
Eh ben, je suis content que vous le fassiez, parce que j'avais envie d'en parler aussi, je ne savais pas comment le faire, alors que vous m'avez fait, c'est parfait, merci.
Eh ben, je suis là. Non, parce que alors, c'est vrai qu'il y a un personnage, alors, ce qui est un peu, je trouve, pour ma part, assez intéressant avec ces panthéonisations, c'est que ça permet de remettre en avant un auteur, c'était le cas de Maurice Genevoix, ou évidemment une dame très très emblématique, c'était le cas avant avec Simone Veil. Et là, moi je trouve que c'est assez extraordinaire de mettre en avant une femme qui n'est pas française, mais dont l'histoire s'est quand même écrite avec la France tout au long du XXe siècle. Alors moi, je fais mon petit historien de base, avant de parler un petit peu quand même des livres. Donc elle est née en 1906 à Saint-Louis. Quand on regarde et quand on lit, et donc là moi je vais avoir comme référence la très 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 belle BD qu'avait fait Catel et Boquet chez Casterman, Joséphine Baker, qui est une BD roman graphique très très bien faite. Alors Catel, en fait, c'est son prénom, c'est Catel Muller, c'est une illustratrice, et Jean-Louis Boquet était au scénario. Et ils ont fait tous les deux déjà Kiki de Montparnasse, Olympe de Gouges. Et vraiment, pour les assidus, j'avais parlé il y a deux ou trois semaines d'Alice Guy, qui était la première cinéaste française. Ouais. Et donc c'était ce même couple qui avait fait ça. Et donc quand on lit, quand on découvre effectivement à travers Catel et Boquet le Joséphine, alors on apprend quand même que c'est une vie extraordinaire. C'est une vie ni plus ni moins extraordinaire et que la France lui doit beaucoup. Et je trouve que c'est ça qui est absolument génial, c'est comment cette femme, née à Saint-Louis, très pauvre, noire, mais noire métisse, qui va, on imagine une énergie folle, une envie de vivre totalement folle, dépasser tout ça et se retrouver à 19 ans en France, 1925, sur les scènes du théâtre. À 19 ans, elle débarque à Cherbourg et du coup après elle est embauchée via un tourneur quelque part. Alors on lui demande tout de suite de se mettre nue et ça va être le début de la revue nègre dans le sens où elle va quand même refuser, mais c'est pas tout à fait ça. Et là commence cette folle aventure de cette femme, donc évidemment très belle, évidemment très douée, chanteuse, danseuse, presque, j'allais dire, presque clown, quelque part. Et on a cette folle aventure de ces années 20-30. C'est le Paris des années 20-30. C'est un Paris où elle va croiser tout le milieu littéraire, tout le milieu artistique, que ça soit les Cocteau, les Picasso, Corbusier. C'est les années folles. Et je trouve qu'il y a les années folles en elle. Et après, il y a ce moment d'une grande force, et c'est ce qui fait aussi que Joséphine Baker rentre au Panthéon, c'est bien évidemment la Seconde Guerre mondiale, où elle rejoint la France libre.
Ouais.
Et on lui doit beaucoup. Et puis moi, je voulais quand même, alors c'était à travers Catel et Boquet dont je viens de parler, mais c'était aussi dans un petit livre pour enfants, aux éditions Rue du Monde, et ils ont fait un petit album qui s'appelle Joséphine, la danse, la résistance et les enfants, du coup à l'occasion de son entrée au Panthéon. Et je voulais quand même juste évoquer ce que moi j'avais un petit peu oublié, hein, pourtant j'aurais dû le savoir, c'est le fameux discours que fait Martin Luther King.
Ouais.
Voilà, on se souvient tous de I Have a Dream, 1963, donc au Lincoln Memorial à Washington. Et la personne qui parle juste avant Martin Luther King, c'est Joséphine Baker.
Ah ouais?
Et elle parle, elle est en uniforme de la France libre. Donc c'est absolument, je trouvais que c'était absolument extraordinaire qu'on fait. Mmh. Et alors, je cite quelques exemples de son discours, hein, où elle cite qu'elle a eu une enfance très, très douloureuse. Et elle dit, quand j'ai quitté Saint-Louis, donc juste avant ses 19 ans, le contrôleur m'a indiqué la dernière voiture du train. Vous savez ce que cela veut dire. Mais lorsque je me suis enfui vers un autre pays, je pouvais aller dans n'importe quel restaurant. Je pouvais boire de l'eau où je voulais et je n'avais plus à utiliser les toilettes pour les gens de couleur. Elle rajoute, vous savez mes amis que je ne mens pas. Quand je vous raconte que je suis entré dans les palaces des rois et des reines, dans les maisons de présidents, mais je ne pouvais entrer dans un hôtel en Amérique et boire une tasse de café. Et cela m'a rendu furieuse. Et donc elle a tout ce discours-là sur évidemment l'instruction et ne pas prendre le pistolet mais plutôt la plume. Mmh. Et donc devant 250 000 personnes, elle a ce discours qui est plus un témoignage de vie, elle qui est devenue une star internationale, mais qui dans son pays, dans les années 60, dans la partie sud, ne pouvait pas avoir une vie normale. C'est un truc c'est un truc complètement horrifiant, je trouve. Et en même temps, heureusement qu'on a eu des voix comme ceci. Et puis, donc, entre autres, dans les deux références que j'ai ce jour, il y a effectivement son aventure intime sa fameuse famille arc-en-ciel.
Ouais.
Alors, pendant très longtemps, moi, j'ai vu ça comme encore une sorte de caprice de star, un peu, alors attention, je vais être horrifiant, mais un peu la Madonna, un petit noir, un petit jaune, etc., pour être horrible jusqu'au bout. Et en fait, quand on regarde de plus près et quand on s'y intéresse, c'est pas du tout ça. C'est du coup avec son mari Joe Bouillon, ils ont vraiment eu l'envie d'adopter des enfants. Et de respecter la culture d'où ils viennent. Ouais. Donc elle a fait il y avait vraiment cette volonté très généreuse. Et puis effectivement c'est ce fameux château qui est devenu presque un château mythique, hein, les Milandes en Dordogne, vieux château quand on regarde les photos, voilà, vieux château du fin fond de la Dordogne. Et là elle va chanter, elle va recevoir, ça va être aussi un hôtel et elle va élever sa tribu. Sa famille arc-en-ciel, et on sait que malheureusement elle va devoir le revendre parce qu'à un moment donné elle est en partie ruinée.
Ouais.
Et jusqu'au bout de sa vie, c'est-à-dire jusqu'en 1975, elle va chanter, elle va être sur scène et elle sera comme ça toute sa vie, effectivement, cette femme qui va se battre. Et elle dira, vivre c'est danser, j'aimerais mourir à bout de souffle, épuisée à la fin d'une danse.
Mmh.
Voilà, on a un volcan comme ça, on a un volcan qui quelque part, heureusement, a touché la France. Et je crois que cette entrée au Panthéon, je trouve que c'est tellement, tellement une belle image de la France que voilà.
Ça fait du bien.
Je suis très content dans mon petit coin d'être entré au Panthéon. Et surtout, j'ai été très content de relire pour l'occasion le très bon Catel et Bocquet. Donc Joséphine Baker aux éditions Casterman. Et puis ce petit livre à mettre entre les mains de tous les enfants qui s'appelle Joséphine. Et c'est à Rue du Monde.
Très bien, merci pour ces références et pour cette rubrique Bertrand Lamure.
Eh bien écoute, 30 novembre 2021, voilà. Et 30 novembre c'est tout simplement parce que le 30 novembre 1937, si je dis pas de bêtises, c'est le jour où elle a obtenu la nationalité française.
D'accord, mais je savais même
d'où pas. Le choix de ce 30 novembre. Je crois que alors là je crois que j'ai tout dit là.
Bon merci beaucoup. On se dit à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, bonne journée à tous.
Bonne journée, ciao.
Ensemble sur Calade.